d'Italie. En français?
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement, d'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di veder de cervellare.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Envie d'Italie. Vous êtes à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, comme tous les premiers lundis du mois. Ce soir, on va vous parler de la nouvelle réforme du marché du travail, voulue par le président du Conseil italien Mario Monti et par Elsa Fornero, la ministre des Affaires sociales. Elle représente la dernière étape d'un parcours de dérégulation du marché du travail commencé désormais il y a 20 ans en Italie. Un long parcours dont on a peut-être perdu le fil, mais dont les effets sont sous nos yeux tous les jours. Les vagues explications trouvées dans les journaux français nous ont donné envie de vous raconter, si ce n'est la vraie histoire de cette réforme, du moins d'ouvrir des nouvelles pistes d'approfondissement et de réflexion. Mais tout d'abord, quelle était la situation avant cette énième réforme, Daniela ?
En effet, avec son armée de travailleurs précaires, prêts à tout pour décrocher le moindre contrat, le marché du travail italien est probablement le plus concurrentiel en Europe. De manière générale, dans l'Union européenne, 40% des jeunes de moins de 25 ans doivent se contenter d'un contrat temporaire. Mais en Italie, c'est encore pire, parce que cette situation de précarité ne touche pas uniquement les jeunes et les femmes, bien que ce soit les premières victimes de la maudite « flexicurité », comme on dit en empruntant le terme de l'anglais « flexicurity », mais également les moins jeunes. Pour un très grand nombre d'Italiens, les jobs temporaires deviennent paradoxalement des précarités stables, des périodes d'essai à outrance. Aujourd'hui, on compte environ 47 types différents de contrats précaires, résultat des réformes du travail commencées dans les années 90. Les employeurs privés ont su bien évidemment profiter de cette situation, mais l'État aussi, au point que même le secteur public est envahi de travailleurs soi-disant atypiques, devenus désormais très typiques malheureusement. Donc en Italie, derrière ces contrats de collaborateurs indépendants, se cachent des relations de travail de type subordonné.
Alors pourquoi ces contrats manqués ?
Eh ben, vous l'aurez deviné, ces faux clients, ou mieux ces employeurs de faux indépendants, ne payent pas de charges sociales, n'étant pas responsables des personnes qui travaillent pour eux. Ce sont en fait les travailleurs qui se chargent de payer les impôts, l'assurance maladie, les cotisations chômage, etc. C'est donc sur eux qui pèse le risque incombant normalement à l'entreprise. De surcroît, ces travailleurs ne bénéficient pas de la protection qui est normalement offerte aux employés, salaire minimum, congé maladie, 13e mois, prime de vacances, retraite, congés payés, droits syndicaux de base en matière de formation, d'égalité des chances ou de droits de grève.
Aujourd'hui, l'aspect le plus critiqué de la réforme du travail de Monti, c'est la mise en cause de l'article 18 du Code du travail qui concerne les travailleurs salariés. On va aborder tout de suite cet aspect de la réforme avec le délégué syndical de la Fédération italienne des ouvriers métallurgistes de la ville de Cuneo, Giacomo De Vizia. Mais il ne faut pas oublier les autres dangers de cette réforme, et notamment en ce qui concerne l'armée des travailleurs indépendants atypiques. C'est pourquoi, dans la deuxième partie de l'émission, nous en parlerons avec le porte-parole du mouvement Il Quinto Stato, le cinquième État, qui vient de se créer et qui s'est réuni pour la première fois à Rome le samedi 5 mai. Pour finir, on écoutera une interview réalisée par Daniele Franco avec Carlo Vercellone, économiste et maître de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne. Il nous parlera de la mutation du rapport capital-travail qui, à partir de la crise sociale du fordisme, a conduit à la montée en puissance de la dimension cognitive et immatérielle du travail, mais aussi de sa proposition d'un revenu social garanti, inconditionnel et indépendant.
Et bah pour commencer, nous vous proposons donc l'interview de Giacomo De Vizia, délégué syndical de la Fédération italienne des ouvriers métallurgistes de la ville de Cuneo, qui va nous éclairer sur l'article 18 et sa réforme.
Allora, Giacomo,
tu sei segretario generale della Federazione Italiana des Ouvriers Métallurgistes de la Ville de Cuneo depuis 2002, où tu t'occupes de 22 usines. Tu as travaillé 15 ans dans une usine avant de devenir syndicaliste de la firme. Peux-tu me parler un peu de ton expérience?
Questa tua esperienza, appunto, prima dalla fabbrica, poi verso questo impegno come sindacalista.
Les deux expériences sont intéressantes et riches de contenu humain et pas seulement.
Molto ricche di contenuti umani e non solo.
Moi, je viens d'une famille ouvrière. Mon père a travaillé 40 ans pour la Fiat.
Più di 40 anni, esattamente 40 anni in Fiat. Era
il était le typique ouvrier de la Fiat qui devait faire la navette entre notre maison et l'usine. C'est lui qui nous a transmis un certain type de culture, une culture du monde ouvrier, mais aussi une culture politique. Car il a vécu pendant les années où le mouvement ouvrier italien s'est structuré politiquement et il a mené des luttes importantes et déterminantes pour l'histoire de notre pays. Il a été délégué syndical de la FIOM, inscrit au PC, et c'est lui qui nous a fait connaître la politique. Moi, en réalité, j'ai eu un parcours un peu différent, parce que j'ai milité pour plus de 20 ans dans les centres sociaux occupés, qui avaient une organisation politique complètement différente de celle de la Confédération syndicale. Et souvent, ils avaient, et ils ont encore, une posture antagoniste vis-à-vis des syndicats. Mais en même temps, j'étais un ouvrier métallurgiste et je voulais rester, peut-être égoïstiquement parlant, avec mes amis, mon peuple. Et parmi mes amis, j'ai trouvé des formes d'organisation du syndicat et j'ai choisi la FIOM, que je pense que c'est la forme la meilleure.
CGL all'interno delle fabbriche. Cosa è cambiato? È cambiato tante cose.
Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé pour les ouvriers métallurgiques. Il suffit de donner quelques chiffres et de parler de la Fiat che tout le monde connaît.
Molto conosciuta che è la Fiat. In Fiat nel finale degli anni
alla fine degli anni 70 a Mirafiori on comptait 500.000 salariés. Aujourd'hui, il n'y en a que 15 000 dont la moitié ne travaille pas pour la Fiat, mais pour Powertrain. Et ces chiffres montrent bien les changements qu'il y a eu.
Mirafiori est une città nella città ed è quasi completamente.
Mirafiori è désormais une ville fantôme, un désert.
Lavorano, eccetera, eccetera, ma il confronto quello che ha trovato mio padre è desertificata.
Il est clair que lorsqu'on parle des emplois perdus en Fiat, il faut multiplier par
4.
Parce qu'il faut considérer que chaque poste de travail en induit 4 autres. L'enduit économique lié au marché de la voiture est très important.
La Fiat a caratterizzato tanto della storia del movimento operaio nel bene e nel male qui in Italia. Ha caratterizzato non solo la storia del movimento operaio, ma la storia stessa della società e del sociale. Perciò sono cambiate tantissime cose.
Ci une classe ouvrière numériquement faible, fragmentée, beaucoup plus fragile, souvent sans mémoire historique et en réelle difficulté.
Un lavoro molto molto preciso sulla cancellazione della memoria e in vera difficoltà perché oltretutto mentre ti sto parlando, come voi saprete,
car comme vous le savez, nous vivons depuis 2 ans une grave crise économique et personne ne sait quand elle prendra fin.
Più di 2 anni fa e che non si sa quando finirà e questa è stata tutta pagata.
E cette crise a été payée par tous les travailleurs, non seulement par la classe ouvrière traditionnelle.
Io ti volevo, continuando su questo tipo di discorso, sappiamo adesso nell'attualità che in Italia...
Le gouvernement Monti parle de réformer l'article 18. Qu'en pensez-vous de toute cette situation?
L'articolo 18, volevo sapere un po' tu cosa ne pensavi di tutta questa situazione.
Ma la domanda che mi fai... Io credo che debba darti una risposta prima di carattere generale e poi di carattere particolare.
A cette question, je dois te répondre d'abord d'une façon générale et ensuite particulière.
La
En Italie, on a trouvé la quadrature du cercle du rêve du capitalisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas une position au Parlement et on a un gouvernement qui est démocratiquement extrêmement discutable, étant donné que ce gouvernement n'a pas été élu par les Italiens. Toute cette situation est le résultat d'une opération pas très propre faite par le président de la République. Le gouvernement Monti, ce n'est pas un gouvernement technique. Ça, c'est l'énième mensonge vendu aux Italiens pour leur faire oublier la misère de la politique italienne qui dure désormais depuis des années. Ce gouvernement fait de la politique et fait une politique de classe. C'est un gouvernement qui fait la lutte des classes. C'est un gouvernement qui est en train de mettre en place des contre-réformes, car elle n'améliore pas les conditions des gens. Au contraire, elle les détériore. Donc, elles sont des contre-réformes. Tout ça est fait d'une façon unilatérale contre les personnes qui travaillent et pas seulement. Dans ce panorama, car nous vivons dans une phase qui est une transition vers quelque chose que je ne sais pas comment définir, car ce n'est plus une démocratie. Moi, je l'appelle la détocratie, mais je ne sais pas si cela c'est le terme le plus correct. En tout cas, nous vivons sur la menace de ce couperet qui n'est même plus national mais international, représenté par la Banque européenne, par le FMI, par tous ceux qui cette crise l'ont créé, généré. En donnant naissance à un système de développement erroné qui nous terrorise. En son nom, ils sont en train de faire les pires des choses. Dans ce cadre international, il y a en effet la réforme du travail en Italie. Cette réforme est en réalité commencée avant, avec la réforme des retraites, la pire des réformes. Aucun pays en Europe a su faire mieux. Les gens vont partir à la retraite à 70 ans, en certains cas même plus tard, 72. Imaginons-nous des travailleurs qui effectuent des tâches difficiles et épuisantes comme dans les fonderies et les aciéries. C'est une vraie condamnation à mort pour ces gens-là. Sans compter le montant des retraites qui sera ridicule, on part du 40% du dernier salaire. Quand on sait très bien qu'en Italie, nous avons des salaires de misère. Peut-être seulement la Grèce fait pire que nous. On part d'un pays qui a le plus grand nombre de travailleurs précaires et où le taux de chômage parmi les jeunes arrive au 30% ou peut-être plus. On part d'un pays qui s'appauvrit de plus en plus. Et qui a un des taux d'imposition les plus élevés en Europe. Toute cette situation devrait donner envie à tous de se rebeller. La réforme du travail voulue par le gouvernement Monti s'inscrit donc dans ce contexte. Avant de parler de l'article 18, je tenais à dire que si nous nous trouvons aujourd'hui dans cette situation, c'est à cause de tous les gouvernements précédents qui ont bien préparé les terrains à ces désastres.
Che hanno preparato il terreno a queste a questi disastri. Però detto questo, l'articolo 18 è uno dei
articoli 18 c'est une des dernières conquêtes des travailleurs obtenues dans les années 70 comme résultat d'une série de luttes menées par les travailleurs et les étudiants italiens entre 1968 et 1970, grâce à des millions d'heures de grève. Statut des travailleurs, où on trouve l'article 15, qui dit que l'on ne peut pas licencier une personne de façon discriminatoire, c'est-à-dire en raison de ses opinions politiques, de son sexe, de sa race, de sa religion, etc. En Italie, tous les jours on licencie. On fait face à un nombre effrayant de licenciements. Mais on ne peut pas encore licencier d'une façon discriminatoire. Si on le fait, on va devant un juge. Et si le juge donne raison au travailleur, l'employeur est obligé de les réintégrer. Donc cette réforme veut modifier l'article 18 de ce statut qui prévoit la réintégration du salarié dans tous les cas de licenciement sans juste cause. Ils veulent monétiser un droit parce que pour eux, tout se réduit à ça finalement, à une question d'argent. Car comme disait un vieux patron de Confindustria, je voudrais avoir un pistolet quand je me promène dans mon usine, mais je ne l'utiliserai pas. Mais je voudrais que les travailleurs le voient. Tu comprends? un pistolet. Un pistolet qu'on peut garder pointé sur les travailleurs afin qu'ils n'aient même pas l'idée d'élever la tête contre lui.
Capisce? Così, una pistola da poter tenere puntata al lavoratore, che non esista nemmeno più la remota possibilità che il lavoratore possa alzare la testa.
Ça, c'est la résolution de l'article 18. Et qu'est-ce que tu fais à Cuneo? Vous êtes en train de vous organiser? Depuis un moment, nous sommes en train de nous mobiliser. Nous avons organisé des grèves au niveau local, régional et national à travers toutes les formes qu'on peut utiliser.
Sia a carattere locale e regionale, con blocchi stradali, con tutte quelle forme che. Diciamo, come organizzazione possiamo mettere in campo.
Malheureusement, purtroppo, notre problème est le fait d'être seul.
Anche il fatto di essere abbastanza soli.
Et cela est très grave en ce moment. Car si on était soutenu par la Confédération nationale,
dalla Confederazione in maniera seria,
on pourrait créer d'autres difficultés.
Sicuramente avremmo potuto creare altre difficoltà.
Tandis que la Confédération, à cause de ses liens politiques qu'elle a toujours eu et qu'elle continue à garder, elle hésite beaucoup. Tu es donc pessimiste à cet égard. Franchement, moi, je cherche d'être le plus réaliste possible. C'est clair que la réalité qu'on vit aujourd'hui me dit que l'un des plus grands syndicats d'Europe, la CGIL, elle n'a même pas assuré les 20% des possibilités de mobilisation pour défendre l'un des dernières conquêtes des travailleurs. Cela, c'est évident. De plus, la CGIL est soumise de façon honteuse à ce gouvernement, car en agissant comme ça, elle viole les statuts du syndicat qui promeut l'autonomie du gouvernement.
Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel, 106.3 FM, et vous écoutez Envie d'Italie, magazine radio d'actualité politique, sociale et culturelle. L'émission de ce soir est consacrée à la réforme du marché du travail proposée par le gouvernement Monti. Comme on disait au début de l'émission, la réforme de l'article 18 du Code du travail, dont on vient de parler avec Giacomo De Vizia, n'est malheureusement pas le seul point critique de cette réforme. Mais avant de continuer, une petite pause musicale thématique. On vous fait écouter Fignon, chant occitan, tiré de l'album L'usina du groupe marseillais Dupin sur l'essor d'un ouvrier licencié après 40 ans d'esclavage salarié.
Impego, ma di che fa un demone sian, ma un padiva te mai fegnan, vessi la causa di l'usino, un peridespe carantan, lo patro mi fa se la mino, desierne mi picciu un pan, ma ora caghe sigi de povo. On travaillera pas contre, on travaillera pas contre. Oh, guérine sans pelencao. Respeto lontano, ieri in prima pazienza la so, a ne rivere lo patro, e li dighe di testa basso, esti perché ne fa papo, trovas che travai trogaire, che poi di più va contenta. Thank you.
ne me sous-sembla, n'est-ce pas qu'à moi ce roubrant, est-ce ma faille et précieuse peigne, c'est vos égards veillent du scar, est-ce pas piétard, est-ce fini, vos doigts n'y qu'à que tu incarnes, y écrasez-vous de mes tavanies. Midias mi rapporte plus fois, si à ce point va dans son travail, à ce peuple qu'on pense si bon, et peu si à ce peigne va être maille, et peu si à ce peigne.
Bonsoir, vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en compagnie de Envie d'Italie. Nous continuons notre émission spéciale dédiée au monde du travail et à la réforme du travail récemment mise en place par le gouvernement Monti en vous proposant le témoignage de Roberto Ciccarelli qui est le porte-parole du mouvement Il Quinto Stato. Il Quinto Stato s'est créé récemment pour proposer et exiger une meilleure reconnaissance et tutelle des travailleurs indépendants et autonomes. Le mouvement ressemble les métiers de la création et de la transmission des savoirs, de l'écriture et du service à la personne, de la traduction et des métiers de la connaissance. Plusieurs entités et associations ont décidé de faire front commun pour pousser l'État à se moderniser et à comprendre que de plus en plus nos sociétés sont fondées sur le travail indépendant et autonome et que ces travailleurs doivent avoir les mêmes droits à l'assistance sanitaire et à la retraite que les autres travailleurs. Au contraire, la récente réforme du marché du travail du gouvernement Monti les pénalise encore plus. Les travailleurs indépendants payent plus de cotisations à l'État, mais sans recevoir aucune garantie en plus. Aux États-Unis existe le syndicat des travailleurs freelance. En France, nous avons le statut des intermittents du spectacle, qui par ailleurs n'est pas né d'un mouvement par le bas des travailleurs et qui est strictement limité à certaines catégories des travailleurs. Mais en Italie, on a l'impression d'assister à la naissance là d'un mouvement de revendication historique qui pourrait donner l'exemple en Europe. J'ai envie de rappeler ici un de leurs slogans « Se chi ci governa non sa immaginare il futuro, proveremo a farlo noi ». Si ceux qui nous gouvernent ne savent pas imaginer le futur, c'est à nous de le faire. Cela résume bien, à notre avis, l'esprit de ce mouvement qui est extrêmement ambitieux et absolument nécessaire aujourd'hui. On attend donc l'entretien Il Quinto Stato.
Allora, Roberto Ciccarelli, sei uno dei rappresentanti del movimento Quinto Stato.
Roberto Ciccarelli, tu es un des représentants du mouvement appelé le cinquième État, Il Quinto Stato. Merci d'être avec nous. Avant de parler de votre rassemblement, pourrais-tu nous faire un point sur la réforme du travail menée tout récemment par le gouvernement Monti, qui en seulement 3 mois a changé le système social et du travail en Italie ?
Il s'agit en fait de 2 réformes. Le gouvernement Monti veut se placer à l'avant-garde des gouvernements européens qui pensent que la crise de la dette puisse être réglée en modifiant le système social et celui de la réglementation du travail.
Quello della regolamentazione del lavoro. L'impatto che avranno queste 2 riforme.
L'impact de ces 2 réformes sera très dur pour tous, mais les plus pénalisés seront les travailleurs dépendants.
I soggetti più colpiti sono sicuramente i lavoratori. Dipendenti che da anni,
déjà pénalisés depuis des années par les salaires les plus bas d'Europe.
Più bassi d'Europa.
mais surtout, cela va être très difficile pour les travailleurs précaires, autonomes, indépendants, car en Italie, cette branche de travailleurs n'est protégée par aucune forme de protection sociale, par exemple le salaire, les périodes de maladie ou d'accident du travail, et l'espoir d'avoir droit à une retraite équitable.
La tutela della malattia e per gli infortuni e la speranza di percepire una pensione.
Il faut savoir que de cette réforme sont exclus 6 millions de personnes, c'est-à-dire un tiers de la force de travail active en Italie, représentée justement par les travailleurs indépendants et précaires.
C'è questa cosa molto particolare in Italia che chiamiamo la gestione.
En Italie, il y a un système très particulier qui concerne une partie des travailleurs indépendants et que l'on appelle la gestion séparée de l'INPS. L'INPS étant la sécurité sociale italienne pour les retraites et la vieillesse. Ils sont obligés de s'inscrire à la gestion séparée de l'INPS, tous ceux qui travaillent de façon indépendante en tant qu'auto-entrepreneurs et avec des contrats de collaboration temporaire. La gestion séparée des LIMPS est l'institut de sécurité sociale en Europe le plus actif, dans le sens que depuis 15 ans, il a un bilan actif d'environ 9 millions d'euros par an.
La particolare riforma della previdenza che è fatta nel 1996.
Mais depuis la réforme du ministre Dini de 1996, cet argent cotisé par le travail des travailleurs indépendants tout au long de leur vie n'est plus restitué équitablement à la fin de leur carrière.
Molto ampio dei collaboratori precari intermittenti, la restituzione equa di quanto versato dei contributi versati durante il lavoro.
Cette somme énorme d'argent est utilisée pour d'autres exigences et notamment pour payer le chômage de milliers voire millions de personnes dont le nombre ne fait qu'augmenter depuis la crise de 2007.
Per pagare le ore di disoccupazione che come nel resto d'Europa dal 2007 ad oggi sono esplose.
Cet argent qui est utilisé pour payer le chômage technique d'un grand nombre de travailleurs en Italie fonctionne aussi comme un déterrent social. Oui, tout à fait. Depuis 20 ans, c'était une manière pour l'État et pour les institutions qui doivent protéger les travailleurs de poser les bases d'un antagonisme entre les travailleurs dépendants et les travailleurs indépendants, entre les travailleurs subordonnés et les travailleurs précaires. À ce propos, peux-tu nous expliquer ce que c'est le Quinto Stato, le cinquième État, comment et quand il est né et qu'est-ce que vous vous proposez de construire ensemble?
Primo luogo, dare una rappresentazione di un mondo.
C'est avant tout une volonté de donner une représentation politique, médiatique et conceptuelle d'une énorme partie du monde du travail. Comme je le disais, de un tiers des travailleurs italiens, qui n'est pas reconnu par l'État ni par les institutions qui devraient protéger leurs droits fondamentaux, les syndicats. Je sais qu'en France, cela peut paraître absurde ou même exotique d'imaginer qu'un tiers des citoyens italiens, sans compter les migrants, n'ont pas accès aux droits garantis par la citoyenneté dans la Constitution italienne.
Della cittadinanza sociale e costituzionale, la cittadinanza garantita dalla Costituzione italiana, può sembrare strano, ma è purtroppo la dolorosa verità.
Cela peut paraître bizarre, mais c'est malheureusement la dure vérité. Et il faut dire che cet univers dont on parle représente le futur du travail et de la société en Italie, comme partout en Europe.
Universo che vive e lavora al di fuori.
C'est un univers qui vit et travaille en dehors du monde de la production et du travail construit autour du concept du contrat à durée indéterminée. Mais si c'est ça le futur, et ce n'est pas moi à le dire, ce sont les statistiques qui prévoient après 2020 un retour de la croissance, une croissance qui n'impliquera pas de forme de travail stable. Cela veut dire que la manière de vivre et de travailler de millions de personnes aujourd'hui en Italie sera la règle. Cela représentera la majorité de la population.
Et verso questo futuro, noi siamo questo paese.
Notre pays se dirige vers ce futur d'une manière totalement inconsciente et sans prendre conscience ni vouloir comprendre ce que cette transformation va amener. Transformation qui est déjà en cours depuis 20 ans, depuis le début des années 90. La politica e l'amministrazione. Les syndicats, la politique et l'administration non seulement n'en prennent pas acte, mais ils ont occulté et nié cette réalité qui est dramatique aujourd'hui, mais tout de même prometteuse pour le futur. Il Quinto Stato, le cinquième État, est une plateforme qui rassemble des réseaux, des mouvements, des associations professionnelles, citoyennes, sociales. Avec il Quinto Stato, nous souhaitons de façon coopérative donner une visibilité à cette réalité qui est structurelle et le sera de plus en plus pour les prochaines générations. Nous souhaitons faire une ample activité de sensibilisation, de coordination et de réflexion autour d'une forme de vie qui sera à la hauteur du futur qui nous attend. Ici en France, il existe un statut spécifique pour les travailleurs intermittents, mais qui ne concerne que les travailleurs du monde du spectacle, le cinéma, la danse, le théâtre. De votre côté, il me semble que vous ayez un regard bien plus ample qui concerne aussi la photographie, le journalisme, les métiers de la transmission. Peux-tu nous donner la définition de ce que vous appelez le tertiaire avancé et des secteurs d'activité concernés par vos revendications ? Le tertiaire avancé représente la totalité des métiers liés à la connaissance. Il y a toutes les professions que tu viens de nommer et nous y incluons aussi toute l'économie des services, aussi bien les services au privé qu'au public et aux individus. Nous incluons aussi la formation et la recherche. Par tertiaire avancé, on entend la grande transformation qui a eu lieu depuis les années 70 dans tout le monde occidental capitaliste et dans les pays émergents. Pays où la production industrielle, qui est pourtant encore solide et représente la première forme de travail, a été accompagnée par une transformation des services à la production et à la population. Deuxièmement, je voudrais souligner quelque chose autour des intermittents du spectacle en France. En Italie, depuis la moitié des années 90, les revendications fortes faites en France d'une façon assez avant-gardiste par rapport au reste de l'Europe a représenté une inspiration radicale et importante.
Molto suggestivo e radicale. Non a caso nella piattaforma rappresentata da Quinto Stato è presente.
Et en fait, dans la plateforme représentée par le Quinto Stato, il y a une présence fondamentale de ce que l'on appelle ici les travailleurs intermittents du spectacle et qui a son centre important dans le Théâtre Val occupé à Rome. Ce n'est pas un hasard si pour les professionnels qui gravitent depuis bientôt un an autour du Théâtre occupé Val à Rome, l'expérience des intermittents du spectacle français représente une inspiration importante, aussi bien singulièrement que collectivement. En Italie, depuis un an, les travailleurs intermittents du monde du spectacle ont été à l'avant-garde de notre mouvement, conscients de la grande transformation advenue non seulement dans le monde du spectacle, mais bien au-delà, dans le monde de la connaissance et des services. Vous parlez d'une citoyenneté qui n'est plus le fruit d'un pacte social et qui donc seulement ceux qui ont un contrat à temps indéterminé peuvent jouir des droits dont nous parlons. Que proposez-vous pour arriver à une nouvelle citoyenneté sociale, celle dont vous parlez dans votre manifeste? En premier lieu, il faut ouvrir les garanties et les protections du travail dépendant à toutes les formes de travail, y compris le travail indépendant. Deuxièmement, on insiste à ne pas créer un antagonisme qui n'existe pas et qui n'a pas lieu d'être entre le travail dépendant et le travail indépendant. Car si on veut maintenir une unité et une justice sociale dans le monde du travail, l'État doit considérer de la même manière toutes les formes actives de travail sur son territoire.
Sullo stesso piano tutte le forme di vita attive e operose che lavorano su un territorio.
E cela è valable sur le territoire national italien aussi bien qu'en Europe. Et cela représente de plus en plus de formes de travail intermittentes, indépendantes, occasionnelles.
Intermittenti, occasionali. E bisogna elaborare un set di diritti fondamentali, un nucleo duro.
Il faut élaborer un noyau dur de droits fondamentaux qui garantisse et protège les travailleurs dans les transitions entre emplois différents ou entre l'emploi et le non-emploi.
Tra lavoro e non lavoro. È una scelta di civiltà.
C'est en fait un choix de civilité. Si on ne veut pas abandonner des millions de personnes qui seront la majorité des citoyens européens d'ici à la prochaine génération, il faut affronter en Italie et partout en Europe de façon coordonnée et s'il le faut de façon conflictuelle ce changement épocal. Et justement, dans votre manifeste, vous dites que vous êtes le grand absent du débat sur la réforme du travail, qui est entièrement centré sur l'article 18. Vous avez montré vos revendications, je voulais vous demander quelles ont été les réactions. Vous avez montré
les vostre rivendicazioni, je voulais savoir un peu quelles sont les réactions que vous avez eues.
Les réactions...
Dans cette première phase, les réactions ont été exceptionnelles. L'appel a été lancé par 29 entités, entre associations professionnelles, de traducteurs et éditeurs par exemple, des réseaux, des mouvements de travailleurs du spectacle. Nous avons donc reçu l'adhésion de 80 autres structures et associations professionnelles, de structures et associations comme l'ARCI, des dizaines de théâtres, des dizaines et dizaines de cinémas, des mouvements étudiants, des mouvements professionnels.
Reti di associazioni come l'ARCI, se non ora quando, decine e decine di teatri, di cinema, di movimenti studenteschi, giovanili e professionali in tutto il paese.
Voi vi fate la prima grande mobilitazione.
Votre première rencontre nationale a lieu le 5 mai à Rome. Quels sont les objectifs et comment vous préparez cette rencontre? Notre objectif est de faire une campagne de sensibilisation et mobilitation au niveau local et national qui durera au moins le temps de la discussion parlementaire autour de la réforme du travail. On discutera à partir de trois points spécifiques. Le premier, faire une contre-proposition de réforme du travail qui concerne aussi bien les travailleurs dépendants que les travailleurs précaires. Le deuxième concerne les modalités de mobilisation au niveau local et national. Et enfin, une réflexion sur la forme à donner au Quinto Stato pour que ce rassemblement de mouvements de revendication puisse maintenir les différences existantes en son sein et les spécificités, tout en trouvant une forme commune et unitaire qui les valorise dans une proposition culturelle et citoyenne unique. Roberto Ciccarelli, tu es aussi l'auteur avec Giuseppe Allegri du livre La Furia dei Cervelli. Tu peux nous en dire plus et en quoi ce livre est lié au mouvement du Quinto Stato?
Il libro è il risultato di almeno 10 anni.
Le livre est le fruit de 10 ans de pratique et expérience dans le mouvement sociaux de base, ainsi que de confrontations avec les plus grands intellectuels italiens et européens qui se sont intéressés au monde du travail. Le livre retrace l'histoire du travail et des réformes du travail en Italie depuis 20 ans. Et il raconte la généalogie du Quinto Stato, que nous considérons comme une émanation, une continuité de l'expérience du Quarto Stato, le quatrième État, que, dans le 19e et 20e siècle, représentait la force du mouvement ouvrier et les luttes du prolétariat.
Figlio illegittimo di quell'esperienza, ma che si pone anche in un certo senso in continuità con quell'esperienza. Quando almeno un terzo della cittadinanza italiana si muove al buio.
Quand un tiers au moins de la citoyenneté italienne travaille dans l'invisibilité, dans le noir, n'est pas reconnu et on ne lui reconnaît pas les droits fondamentaux à la maternité, à la paternité, à la maladie, aux accidents du travail, c'est comme si cette masse de travailleurs n'existait pas. Vous pouvez imaginer les difficultés que ça suscite. En pratique, tu existes en chair et en os, tu travailles, mais quand tu as un problème de santé, par exemple, ou que tu as besoin d'un document, c'est comme si tu n'existais pas. C'est une condition qu'Hannah Arendt aurait définie de l'apolidie. Tu nais dans une société et un État, mais c'est comme si tu n'existais pas. Et c'est paradoxal, mais cette condition de cinquième État est très semblable à celle des migrants, qui sont, toujours pour citer Hannah Arendt, comme des extraterritoriaux par rapport à un État. Alors évidemment, avec une énorme différence entre les migrants et les citoyens italiens, qui est dans le droit de citoyenneté. Mais si on réfléchit à la condition anthropologique dans laquelle ces deux groupes humains exercent leur citoyenneté, on découvre des analogies inquiétantes. Pour terminer, il Quinto Stato est la bataille pour donner visibilité et voix à la condition qui sera celle de notre futur.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM et vous écoutez comme tous les premiers lundis du mois en Vie d'Italie. Avant de passer à la troisième partie de notre émission dédiée au travail, on va faire une petite pause musicale et on vous propose d'écouter Marta, une chanson tirée du spectacle sur le travail précaire de Marco Paolini, intitulée Miserabili, io e Margaret Thatcher, réalisée en collaboration avec le groupe Mercanti di Liquori. Marta parle de la vie d'une employée de call center. Sa voix est gentille, mais la réalité qu'elle cache n'est pas la vie en rose. On écoute donc Marta de Marco Paolini et I Mercanti di Liquore.
Io sono fortunata, ho le cuffiette e come le soubrette non faccio la spaccata. E non annuncio neanche la pubblicità. Io parlo tutto il giorno perché son fortunata. E mai nessuno mi potrà zittire mai. Io sono fortunata, sempre, anche il mio papà, lavoro rilassata, seduta davanti al mio PC, dice che lui invece è stato sfortunato, che stava alla catena e non parlava mai, ha sempre lavorato con la lamiera. Dentro la fabbrica passava un minuto e poi la pressa andava giù e poi ricominciava e non cambiava mai. 200 volte al giorno non cambiava mai.
Buongiorno, sono Marta, lo dico sempre a chi telefona e poi sorrido e parlo, che col cliente ci vuole familiarità. Io sembro proprio bella, è come una soubrette e tutti han voglia di parlare con me. Ogni telefonata parlo per un minuto al massimo, perché dopo un minuto mi fanno cenno di metter giù e dopo ricomincio. Buongiorno, sono Marta, 200 volte al giorno non mi fermo mai.
Buongiorno, sono Marta, mi dica. Buongiorno, sono Marta. Lei ha perfettamente ragione. Buongiorno, sono Marta. Mi dica, capisco il suo punto di vista. Buongiorno, buongiorno, sono Marta. In cosa posso esserle utile? Attende mi faccia una cortesia. Buongiorno, sono Marta. Certamente, capisco il suo punto di vista. Un attimo che controllo. Buongiorno, buongiorno, sono Marta. Adesso dirigo. Buongiorno, sono Marta. Buongiorno, mi dica. Lei ha perfettamente ragione. Attende in linea, per cortesia. Buongiorno, sono Marta. Un attimo che controllo. Capisco il suo punto di vista. Buongiorno, adesso dirigo. Buongiorno, sono Marta. In cosa posso esserle utile?
Bien retrouvé sur FPP 106.3 FM en compagnie d'Envie d'Italie. Donc, on vient d'écouter cette chanson de Marco Paolini et du groupe Mercante di Liquore qui s'appelle Marta. Dani, tu as compris un petit peu de quoi elle parlait, la chanson, ou pas?
Bah oui, c'était un peu triste sur ces travailleurs de call center. D'ailleurs, ça me faisait penser à un film de Ascanio Celestini, qu'il avait fait un documentaire autour du travail de ces travailleurs qui étaient tout à fait exploités.
Ouais. Qui ont créé d'ailleurs un mouvement en Italie très très connu dans le mouvement des précaires, en fait, les travailleurs du call center.
Mm-hmm.
Bon, écoute, on continue, hein, en tout cas.
Oui, alors nous abordons la dernière partie de notre émission spéciale dédiée à la réforme du travail du gouvernement Monti, en vous proposant d'élargir le champ de réflexion de ce soir en parlant de la crise du travail d'un point de vue plus global. Pour le faire, nous avons demandé de l'aide à Carlo Vercellone, économiste et maître de conférences à l'université Panthéon-Sorbonne, qui depuis plusieurs années travaille sur la notion de capitalisme cognitif et sur celle d'un revenu social garanti, inconditionnel et indépendant de l'emploi. Avec son analyse, on espère, en paraphrasant André Gortz, mieux comprendre quelles sont les brèches qui s'ouvrent dans la logique du système pour pouvoir les exploiter et les élargir. On écoute donc Carlo Vercellone.
Aujourd'hui, avec Carlo, nous voudrions nous plonger dans le monde de l'économie pour essayer d'avoir un point de vue différent par rapport à celui que les médias nous proposent tous les jours. Crise, inégalité, fin de l'État-providence sont parmi les thèmes les plus souvent traités à la télé ou sur les journaux, qui nous font sembler les sujets encore plus distincts. Tout ça a l'effet de nous faire ressentir notre impuissance face au jeu des marchés. Mais comment donc nous sommes arrivés à la crise actuelle? Et tes ouvrages portent sur le post-fordisme, le rôle du travail cognitif dans la nouvelle économie et sur la fin du capitalisme lié à l'industrie comme nous l'avons connu jusqu'à il y a 20 ans. Quelles sont donc les origines de ce processus et est-ce qu'il est complètement achevé?
Là, je commencerai par une affirmation quelque peu lapidaire, mais qui permet de bien comprendre l'essence, disons, de l'analyse que je vais développer. Je crois que la crise actuelle exprime la contradiction fondamentale, systémique, entre la logique rentière du capitalisme cognitif et financiarisé d'une part, et les conditions à la base d'une économie fondée sur la connaissance et les productions de l'homme par l'homme d'autre part. Pour m'expliquer, disons, peut-être davantage, disons, sur ces points, je dirais que la dimension cognitive du travail, elle est propre et, pour certains aspects, disons, l'essence même de l'homme. Donc, c'est ce que Marx rappelait déjà, disons, avec les célèbres exemples dans les livres premiers, disons, du Capital, de l'abeille et de l'architecte. Il disait, l'abeille exécute, disons, son travail de manière instinctive, répétitive, alors que l'architecte, même le pire, disons, des architectes, a déjà pensé la structure, disons, de ses cellules dans son cerveau, disons, avant de les dessiner et de les reproduire. Donc, cette dimension cognitive, disons, du travail est l'essence de l'homme. Cependant, cet essence de l'homme peut entrer en contradiction avec la logique de la valorisation du capital et la logique du contrôle du capital sur le travail. Pourquoi? Pour deux raisons qui sont étroitement liées. La première raison est la suivante. Ceux qui détiennent les savoirs, ceux qui détiennent la maîtrise, disons, des procédés de fabrication peuvent également dicter les rythmes et les modalités des processus opératoires. La deuxième raison, encore plus importante pour certains aspects, ceux qui détiennent la maîtrise des puissances intellectuelles de la production peuvent aussi revendiquer, disons, les droits de déterminer quelles sont l'essence et les finalités sociales de la production. Tout cela explique pourquoi, avec, disons, d'autres facteurs, la voie qui avait été empruntée par le capitalisme industriel avait été une voie consistant à nier la dimension cognitive du travail et à la renverser en quelque sorte, disons, dans son contraire, c'est-à-dire dans un travail mécanique, répétitif, interchangeable, contrôlable de l'extérieur, et donc assujettissable, disons, au capital qui, de cette manière, réduisait l'incertitude sur l'exécution du contrat du travail. L'un des enjeux clés de la crise du fordisme et de la formation de l'intellectualité diffuse a été en quelque sorte la réappropriation de la part du travail de ses maîtrises des puissances intellectuelles de la production. Et cela explique aussi pourquoi, aujourd'hui dans le capitalisme contemporain, les formes du contrôle du travail ont radicalement changé. C'est-à-dire que ces formes du contrôle du travail, dans la mesure où elles ne peuvent plus se rapporter exclusivement, disons, bien évidemment, cela, il existe encore, disons, il existe encore, disons, du taylorisme, mais ne peut plus se rapporter principalement sur le fait de pouvoir prescrire exactement comment le travail doit être exécuté, mais il faut faire le compte avec cette autonomie du travail, doit de plus en plus porter sur la subjectivité même des travailleurs. Et donc, nous avons vraiment un conflit qui, dans ce qui recèle, disons, de plus profond, porte aujourd'hui sur les finalités sociales même de la production. Et je pense que l'un des enjeux, disons, de la crise actuelle est, d'une part, du côté du capital, de nous faire penser que tout cela est inéluctable, hein, que nous sommes véritablement assujettis, malgré la puissance de ce travail cognitif, à des lois objectives, disons, du marché qui nous dominent et qui font de l'économie que non pas un instrument dont l'homme se peut servir, mais un ensemble de mécanismes, des lois d'arrêt auxquelles il doit se soumettre. Et d'autre part, ces capacités du travail cognitif qui se reconnaît, disons, dans sa puissance et qui, à partire de sa maîtrise des puissances intellectuelles de la production, peut aussi se réapproprier du sens et des finalités de ce qu'il fait et donc de l'objet de la production elle-même.
La crise actuelle est en train de changer la hiérarchie des puissances économiques globales. Quel rôle peut avoir l'Europe au sein de ces changements?
Au sein de l'Europe, on peut mettre en exergue une corrélation fortement positive entre les pays où les services collectifs du welfare state sont les plus développés et les performances sur le plan d'une économie de la connaissance et donc sur le plan de la division internationale du travail. En effet, là où les services collectifs sont les welfare state sont les plus développés, on remarque une inégalité salariale et de revenus moindre. On remarque aussi des inégalités de genre, disons, moins importantes, mais aussi que les formes d'organisation du travail les plus avancées, hein, ce qu'on appelle les formes d'organisation apprenantes, disons, pour les différencier du toyotisme et du taylorisme, par exemple, sont les plus développées. Et donc ces pays, hein, ont aussi les degrés de vulnérabilité à la concurrence internationale, disons, les plus faibles. Alors, on remarque donc come les tentatives de démanteler, disons, les institutions du welfare state, loin de renforcer la position de l'Europe dans la division internationale du travail, pourraient conduire, disons, à l'affaiblir. Alors, plus en général, je dirais la chose est suivante. Avec l'événement d'une économie fondée sur la connaissance, la division internationale du travail tendait à reposer sur de nouveaux principes. C'est-à-dire, les pays développés tendait à essayer de s'approprier des bénéfices de la propriété intellectuelle, des bénéfices de production à forte valeur ajoutée, notamment pour ce qui concerne, disons, la conception, en reléguant, disons, les autres pays, par exemple les pays émergents, dans une position subordonnée des producteurs de marchandises et manufacturées à faible valeur ajoutée. Et sur cela, disons, on a assisté aussi pendant des années au développement, par exemple, disons, de la Chine, qui était présentée comme le grand atelier du monde. Mais à fur et à mesure, la Chine, comme d'autres pays asiatiques, sont parvenus à remonter les filières, hein, jusqu'à, disons, à la phase de conception, c'est-à-dire la phase stratégique du point de vue, disons, de la production de valeur ajoutée et du point de vue de la production des connaissances. De telle sorte qu'aujourd'hui, si la Chine, par exemple, fait tellement peur, ce n'est pas tellement parce qu'elle serait devenue l'atelier du monde, mais parce que progressivement, se protégeant aussi du capital financier et de ses effets déstabilisants, elle est en train de remonter la filière jusqu'à porter la concurrence sur les créneaux les plus porteurs de la division internationale du travail. La Chine produit chaque année bien davantage d'ingénieurs, disons, que la France. Et donc il y a une intellectualité diffuse, une intelligence collective qui se développe en Chine et plus en général dans les autres pays asiatiques et qui va leur permettre de combiner en même temps la révolution industrielle et la révolution cognitive.
Au cours des deux dernières années, différents mouvements de résistance contre la crise et les politiques d'austérité se sont déployés en Europe et aux États-Unis. Qui sont les membres de ces mouvements?
Les gens qui descendent dans la rue expriment cette composition du travail cognitif qui s'est développée, disons, durant ces 30 dernières années. Une composition du travail cognitif qui a subi un terrible processus de déclassement. Dès lors que le travail est devenu de plus en plus cognitif et intellectuel, pour les capitales s'est posé le problème: comment contrôler cette force de travail? Une force de travail qui devient de plus en plus autonome, disons, dans sa capacité d'organiser la production. Je dirais qu'à ce niveau, deux mécanismes ont remplacé l'ancienne logique, disons, de la déqualification. Le premier mécanisme est un mécanisme de précarisation de la force de travail. Deuxièmement, on peut dire que dans le passage du capitalisme industriel au capitalisme cognitif, on est passé de la prescription taylorienne, disons, du travail, c'est-à-dire des tâches que les ouvriers devraient faire, à la prescription de la subjectivité. Là, en quelque sorte, on peut donc dire, hein, que la logique du déclassement et de la précarisation dans le capitalisme attuel joue, du point de vue du contrôle de la force de travail, le rôle que jadis était joué par la déqualification et la prescription du travail dans les usines tayloriennes. Déclassement et précarisation signifient aussi que pour les nouvelles générations de travailleurs cognitifs, paradoxalement, les possibilités de mobilité et d'ascension sociale sont aujourd'hui beaucoup plus faibles. Et je crois qu'à cet égard, ceux qui ont exprimé les mouvements, disons, des indignés, ceux qui ont exprimé, disons, les mouvements en Grèce, est véritablement une sorte de révolte de l'économie fondée sur la connaissance à l'égard, hein, de la logique du capitalisme cognitif et financiarisé. Une logique qui ébauche les termes d'un modèle alternatif, un modèle que l'on pourrait résumer autour de deux axes principaux. Premier axe, les productions du welfare state, les productions de l'homme par l'homme, au lieu d'être considérées comme un coût, devraient être en revanche considérées comme le secteur moteur d'une économie fondée sur la connaissance, capable de satisfaire les besoins essentiels et aussi de développer un modèle socialement et écologiquement soutenable. Deuxième axe, opposé à la logique de la précarité et de la flexibilité subie, une logique de la mobilité choisie à travers un développement ultérieur du système du salaire socialisé. Et dans ces perspectives, à mon égard, peut s'inscrire et émerge de plus en plus, disons, dans les luttes, la proposition d'un revenu social garanti indépendant de l'emploi.
Cette idée du revenu garanti est très intéressante. Est-ce que tu peux approfondir ces concepts?
L'idée du revenu social garanti repose sur les transformations du travail productif aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le travail cognitif est un travail qui s'étend sur l'ensemble des temps sociaux et qui participe directement ou indirectement à la production des valeurs et des plus-values capturées par les entreprises. En même temps, il développe toute une série, disons, de formes alternatives de coopération productive autonome, dans un rapport souvent extrêmement complexe et conflictuel entre ces deux dimensions. Les revenus sociaux garantis se proposent donc de reconsidérer la notion même de travail productif d'un double point de vue. Le premier point de vue consiste à considérer que désormais le travail qui produit de la valeur, qui produit de la plus-value, s'étend sur l'ensemble des temps sociaux et n'est pas reconnu et n'est pas rémunéré par les entreprises. Mais de l'autre part, il s'agit aussi de considérer que le travail peut être productif, de richesse, même s'il est improductif de capital, c'est-à-dire s'il ne produit pas, disons, de la valeur. A cet égard, les revenus sociaux garantis devraient donc permettre d'augmenter la capacité de résistance du travail cognitif par rapport aux conditions imposées par les entreprises, en lui permettant de récupérer la maîtrise de son temps et de développer ses formes alternatives de production non marchande. Et donc le revenu social garanti pourrait être pensé comme un revenu socle, réunissant l'ensemble des composantes de la force de travail dans une négociation collective avec l'État et les capitales. Sur le plan de vue, disons, de la faisabilité, disons, avec des travaux que j'ai menés avec Jean-Marie Monnier, nous avons montré que, à condition, disons, d'une réforme fiscale radicale. Une réforme fiscale radicale signifie revenir, sur l'un, disons, des axes principaux des politiques néolibérales depuis les années 80. Ces politiques néolibérales ont consisté essentiellement à exonérer ou à baisser les impôts, et baisser la progression fiscale sur les classes, disons, les plus aisées. De telle sorte que, comme on le sait, en réalité, les déficits à long terme, disons, de l'État ne dépendent pas, contrairement à une idée reçue, d'une augmentation des dépenses qui sont restées à peu près stables en pourcentage de PIB, mais résultent par contre d'une baisse systématique des recettes. Et là, il y a vraiment un effet central dans le mode de répartition, disons, du revenu dans le capitalisme cognitif et financiarisé qui a conduit à des niveaux d'inégalité comparables, disons, à ceux des années 20, à ceux de la crise, disons, des 29. Donc, revenir sur l'ensemble, disons, de ces réformes fiscales permettrait de rééquilibrer radicalement la répartition du revenu et de cette manière de financer les revenus sociaux garantis, ce qui implique bien évidemment le passage à un autre modèle de société. Je pense donc qu'aujourd'hui, il est essentiel, y compris à travers la proposition de revenus sociaux garantis, de rompre cette identification du travail au travail-emploi pour retrouver l'essence anthropologique et historique du travail émancipé de la dimension de la contrainte au rapport salarial. Et c'est ce qui nous montre, disons, d'une manière paradoxale, mais extrêmement puissante, disons, et significative, les retraités. En effet, quel est le grand, disons, enjeu, disons, des retraites? Le grand enjeu des retraites, c'était que des générations et des générations d'individus, ils pouvaient arriver, disons, à un âge où ils étaient encore relativement jeunes, s'émanciper du rapport salarial, non pas pour aller à la retraite, disons, comme on dit, pour rien faire, mais pour découvrir un travail libre de la contrainte du rapport salarial. Et je dirais même, et ce point, disons, à mon sens, disons, essentiel, comme l'a aussi fait remarquer, disons, Bernard Fouillot dans un ouvrage important intitulé « L'enjeu des retraites », qu'en réalité on peut affirmer que c'est les travails libres des retraités qui payent leur retraite. Et là encore, on va sur une conception offensive et non pas purement défensive des acquis sociaux du welfare state, où toutes ces formes de revenus socialisés doivent être considérées comme un revenu primaire, comme un revenu garanti qui n'est pas octroyé au niveau de la redistribution d'une valeur créée ailleurs, mais qui est la contrefaçon, disons, directe du travail, disons, libre qui se développe dans une économie fondée sur la connaissance et les productions de l'homme par l'homme.
Bien retrouvé sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM en compagnie d'Envie d'Italie. Nous venons d'entendre l'interview avec Carlo Vercellone. Interview que vous pourrez réécouter avec l'ensemble de l'émission sur notre blog Envie d'Italie chez WordPress. Nous vous invitons à tout moment à nous contacter pour nous faire part de vos envies et vos observations à l'adresse envieditalie.fppradio@gmail.com et à travers notre page Facebook qui a quand même de plus en plus de succès, Véronique,
oui,
on peut le dire.
Oui, oui.
Finalement, donc, malgré nous...
Conseillez notre page à vos amis aussi, c'est bien.
Tout à fait. Avec quelques réticences qu'on peut avoir avec Facebook, jusque-là, il se révèle quand même un bon outil de communication, donc,
oui,
à suivre.
Donc, on est très contents, en fait, de pouvoir terminer cette émission en parlant et en vous parlant du thème de la prochaine émission de juin, parce qu'on a ici notre ami du mouvement Notave Paris qui vient de se créer et va nous parler de ça. Donc, bonsoir, Lilia.
Bonsoir.
Et merci d'être venue là.
Merci.
On va profiter un petit peu pour te poser quelques questions en avant-goût de la prochaine émission. Tout d'abord, je voulais savoir pourquoi est si important de parler du mouvement Notave même en France.
Oui, bonsoir. On est très content de pouvoir faire cet approfondissement avec vous par la radio, par le biais de la radio, parce que le mouvement Notave, c'est un mouvement qui est né il y a 20 ans en Italie, dans la Valle di Susa en particulier, en province de Turin. Et c'est un mouvement qui est né contre la construction d'une grande œuvre publique du TGV Lyon-Turin, donc avec un capital donc italien, français, européen. Disons que c'est une œuvre absolument inutile et que les gens ils se rendent compte de plus en plus de son inutilité parce qu'il y a de fait une baisse des voyageurs et des marchandises qui passent de l'Italie à la France et vice-versa. Et ça fait partie ça d'un projet, un plus grand projet qui prévoit une grande ligne de Kiev à... C'est mieux ?
Oui, merci.
Une grande ligne ferroviaire qui partirait de Kiev jusqu'à Lisbonne. Donc absolument une œuvre majestueuse pour des intérêts de très peu de gens et qui implique pour sa construction la destruction de fait de l'environnement dans la vallée. Raison pour laquelle le mouvement Notave dans la vallée du Susa est absolument très combatif parce qu'ils vont voir... les ressources, par exemple, aquifères, les fleuves se dessécher, faire un tunnel de 57 km sous une montagne qui contient de l'amiante et de l'uranium. Et donc, avec des conséquences que personne ne peut vraiment encore très bien évaluer, sinon que c'est ultra dangereux. Et ça serait en plus, c'est absolument un gâchis d'argent public, surtout dans un moment comme celui-ci où en Italie on a les écoles qui tombent, on est vraiment dans une situation, on enlève les trains les plus pour les petits trajets, on les supprime complètement pour construire donc quelque chose qui on ne sait pas trop bien à qui sert, vu qu'il y a déjà une voie ferrée qui part de Turin et qui relie la France, des autoroutes, il y a vraiment toutes les formes de communication par terre et par voie ferrée, quoi. Donc la voie ferrée maintenant elle est sous-exploitée et juste à un niveau de 30% en fait, du coup on a 70% de possibilité de l'exploiter, de faire passer les marchandises, les gens, etc. Et donc nous on se bat fermement depuis 20 ans en Italie et maintenant en France, on veut absolument rendre un peu plus conscientes les gens de ce qui se passe, parce que la France, elle est naturellement complice, on va dire, dans ce projet. On sait déjà que Monsieur Hollande, dont on est tous très contents, naturellement, pour ne plus, enfin, de de l'avoir pour ne plus avoir Sarkozy, on est sûr, mais il s'est déjà exprimé à faveur de la TAV en disant que la France a besoin de la TAV pour grandir économiquement. Et donc, il va falloir quand même avoir conscience de ce que ça implique ici, parce qu'il y a de l'argent français. Et dans notre vallée à Turin, donc au niveau déjà d'environnement et par rapport en fait, à la dépense publique, de l'argent public.
En fait, toi, tu étais en Italie jusqu'à il y a quelques jours.
Oui.
Et tu as donc, tu étais donc dans la vallée. Oui. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment c'est la situation ?
Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Ouais. Donc, bon, là, en ce moment précis, disons que tout est assez un peu calme, on va dire. On a... ensuite, il y a eu des arrestations, il y a eu une grande répression du mouvement, donc avec des personnes qui sont en prison déjà pour le simple fait d'avoir résisté, quoi. Et ils sont en attente de procès, ils sont depuis le mois de janvier, ils sont en prison. On ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Et... donc, là, il y a eu les expropriations des terres de manière officielle, avec un officiel judiciaire qui a signé et consigné et livré les papiers à tout le monde, pour à tous les propriétaires, en fait, pour occuper donc les terrains pour faire les travaux. Sur cette expropriation, de fait, elle n'est pas très claire et très... légal, on dit aussi, parce que ça, ils ont pris des mètres en plus de terre déjà. Donc, ce n'est déjà pas juste. Et puis, les gens qui ont été expropriés, ils n'ont toujours pas encore vu un seul centime d'argent par rapport à leur terre.
Combien de personnes en fait, ont subi l'expropriation, tu ne sais pas?
Exactement, je ne sais pas te dire, je devrais chercher le numéro, mais bon, on parle de centaines de personnes. En plus, le comité notable, il s'était constitué aussi, comme c'est quand même une histoire de mouvement populaire, horizontal. Beaucoup de personnes, ils s'étaient unis aussi pour acheter de nouvelles terres et pour avoir donc une multipropriété, on va dire, sur des terres qui seront utilisées pour faire ce chantier. Le chantier... Donc, jusqu'à il n'y a vraiment pas longtemps, il était complètement un fantôme parce qu'ils n'avaient rien fait. Il y a une présence militaire quand même assez importante qui veille là-dessus et qui empêche de se rapprocher physiquement, carrément aux filets, aux barrières qui ont été créées. Ils ont coupé des arbres centenaires. Ils ont déjà tué quand même une bonne partie, une partie de la montagne en fait, en coupant des arbres qu'ils avaient 265 ans à ce niveau. Enfin, on était vraiment, enfin, c'est un désastre déjà au niveau de l'environnement assez visible. Et puis il y a aussi d'autres mouvements qui se créent en Italie liés à ça en ce moment. Qui s'oppose au transport de l'os marino, on dit en italien, donc des déchets de la montagne qui verront pris, disons, de la montagne du moment où il y aura les travaux, et qui vont être transportés dans des caves un peu partout autour de Turin, en transportant du coup des pierres, sûrement radioactives, de l'amiante avec des petites poussières qui vont partir partout. Et les citoyens, ils sont très déterminés. Ils posent vraiment des questions directes aussi aux pouvoirs locaux qui sont pour la plupart complices de ça, en silence.
À droite et à gauche, en plus.
En fait, c'est aussi une question assez politique. C'est-à-dire que depuis 20 ans, il n'y a pas vraiment eu de dialogue. Il n'y a pas eu de concertation avec la population locale qui en demande de plus en plus et qui manifeste pacifiquement et qui se... Voilà, c'est une vraie question qui est intéressante en Italie. Et le mouvement, il est en train de prendre de l'ampleur et sa valeur est reconnue aussi là-dedans. Ça pose un problème.
Oui, ça a été réellement imposé, en fait, cette œuvre, sans demander déjà ni aux citoyens de la vallée et ni aux Italiens, même au niveau, si on veut, de référendum, je ne sais pas, vu que ça agit je crois, 20 milliards au moins d'argent des caisses italiennes, d'argent public. Et donc, c'est vrai que politiquement, ils ont décidé, ils veulent l'imposer. Même le président Napolitano, la dernière fois qu'il était à Turin, il a refusé de rencontrer des représentants du mouvement qui demandaient donc une discussion, quoi, parce que officiellement, il n'y a jamais eu une vraie confrontation, ni de la part des institutions, ni de la part de la région, ni de la part de la province de Turin, par exemple. Voilà. Et il y a beaucoup de maires, par exemple, des villages qui sont notaves et qui soutiennent leur population, qui est, je ne sais pas exactement combien de milliers on peut évaluer, mais il y a vraiment beaucoup des centaines de milliers de notaves dans la région du Piémonte, c'est sûr. En Italie, là, en ce moment, ça a pris beaucoup plus d'ampleur parce que, justement, les gens, ils ont compris que, déjà, il y a de l'argent qui part quand on demande des comptes à la base, chaque fois, des coupures de retraite, des salaires pas payés, par exemple. Je pense, bon, là, on parlait du travail. Je pense à Turin, il y a cette situation en ce moment des précaires des écoles et des coopératives qui ne prennent pas leur salaire depuis des mois parce que les régions et les structures publiques, ils n'ont plus d'argent quoi, pour leur payer. Donc, le mouvement, c'est vrai qu'il a expérimenté en plus une forme nouvelle de participation et de décision politique de la part de la base, parce que ça a été un vrai exemple qu'on ne connaissait pas de création d'assemblées populaires sans un leader précis, mais vraiment avec toutes les décisions prises ensemble. Constamment, toutes les actions, elles ont été décidées ensemble. Et il y a un respect, ça c'est la règle quand même la plus respectée dans la vallée par rapport à ça. Enfin, c'est une limite déontologique, quoi.
Je pense que c'est ça qui fait vraiment peur au pouvoir. C'est ce type, nouveau type de participation et des luttes politiques, en fait, on va dire.
Oui, et je pense aussi que dans les autres endroits d'Italie, de base, une lutte comme ça, ça peut donner l'exemple à appliquer dans différents lieux qui ont d'autres problèmes. Je pense aux décharges abusives ou non. À Naples, par exemple, il y a eu une lutte populaire assez importante aussi. Et voilà, dans la pratique quotidienne, le mouvement a montré que, disons, le peuple, de manière transversale, vraiment, peut s'unir et dire aussi, c'est notre terre ici, on habite ici, on veut savoir ce qui se passe et il faut que vous teniez compte qu'on est là, quoi.
Et comment réagit la vallée? Parce que, donc, face à ça, il y a eu récemment surtout beaucoup de violence. Les réactions policières,
bien sûr.
Donc c'est du bloc, c'est très, des violences.
La vallée, je dirais qu'elle est déterminée. Le mouvement, il est quand même assez déterminé par rapport à ça, par rapport à la défense de leur terre. Donc il n'y a pas question d'occuper militairement plutôt que d'imposer avec la force quelque chose comme ça. Il y a vraiment tout âge, toute génération, donc toute histoire confondue, classe sociale, et ils ont une vraie détermination à défendre leur terre, quoi, parce que sinon ils vont mourir aussi. C'est-à-dire que un endroit où ils ont toujours fait de la culture. Oui, de la culture, pardon.
Agriculture aussi.
Oui, plutôt. Des agriculteurs, des éleveurs, des générations entières qui vivent sur ça, qui ne vont plus pouvoir utiliser leur terre. Donc, c'est aussi survie pour le futur, par rapport aussi aux générations et le futur, aux enfants, quoi. On entend beaucoup ça par rapport aux enfants. Quel futur on va leur laisser, quels moyens ils vont avoir pour s'en sortir. Et Il y a beaucoup d'enfants aussi qui sont dans le mouvement, qui sont présents dans les manifestations chaque fois. Bon, il y a des générations qui ont grandi maintenant, des gens qui commencent à avoir autour de 18, 20 ans, qui créent leur... Enfin, qui maintenant, ils participent activement, mais qu'ils ont grandi de fait vraiment jour par jour avec le mouvement dès l'enfance, quoi. Donc, c'est important.
En fait, on va continuer à approfondir tous ces thèmes dans la prochaine émission, donc en juin. Mais je sais qu'il y a des rendez-vous à Paris pour soutenir le mouvement Notav en France et en Italie, pour le connaître aussi. Et donc, est-ce que tu peux nous donner les rendez-vous?
Oui, donc jeudi 10 mai, à la rôtisserie en rue Sainte-Marthe, Paris 10e, on fera un repas de soutien à la lutte Notav en Italie et de soutien au mouvement en général et au comité Notav de Paris pour pouvoir effectivement continuer à diffuser les informations et à créer un peu aussi un débat. Et le 5 juin, il y aura une soirée dans le Festival des Résistances Alternatives Parisiennes, le FRAP, au Chakirail, 72 rue Riquet, dans le 18e, où on fera des rencontres avec des militants notables de la vallée.
Et vous avez quand même une page Facebook, vous avez un site internet, donc les gens peuvent venir trouver les informations. On va mettre tout ça sur notre site internet, comme ça les auditeurs pourront y aller pour vérifier toutes ces infos.
Oui,
en tout
merci.
Cas, là, on termine notre émission et je remercie vraiment d'abord Lilia d'être venue ici pour... nous parler un petit peu déjà du mouvement Notav et aussi pour l'aide que tu vas nous donner pour contacter les gens de la vallée. On va vous préparer des belles interviews. Et après, je voulais aussi remercier tous les invités qui ont participé à notre émission. Donc, Dani, tu vas m'aider. Alors,
on a Giacomo De Vizia, voilà. De Cuneo, Roberto Ciccarelli del Movimento Quinto Stato, et Carlo Vercellone et Daniele Franco qui nous a aidés à interviewer l'économiste Carlo Vercellone.
Après, on remercie comme toujours aussi Irene Fontana qui n'est pas là ce soir mais qui nous aide toujours pour les traductions et pour les voix off. Dani, toi aussi, je te remercie pour ton aide, ton travail. Et on remercie aussi la radio Fréquence Paris pour l'Uriel qui nous permet d'être là. Salvatore Orsini de la Ville des Gens qui nous aide aussi à faire connaître cette émission. Et donc, on se voit en juin, le 4 juin, pour une nouvelle émission. Et on va vous saluer avec un petit morceau de musique avant de laisser la place à l'émission suivante. En fait, c'est Lavorare con lentezza, une chanson de 1974 d'Enzo Del Re. C'est un musicien très engagé qui a été un des figures les plus radicales de la scène musicale italienne des années 70. Il utilisait des instruments musicaux traditionnels, par exemple des percussions créées avec des matériaux de recyclage, généralement des chaises. Et de plus, il demandait comme cachet pour ses exhibitions l'équivalent du salaire journalier d'une métallurgiste. Et d'ailleurs, le morceau « Lavorare con lentezza » di Enzo Del Re ouvre tous les matins les émissions de Radio Alice, la radio libre de Bologne, née en 1977. Et avec cette chanson, donc, je rends hommage aussi à ma ville natale, Bologne. Et sur ça, je vous dis au revoir et merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve le 4 juin pour une nouvelle émission d'Envie d'Italie, toujours sur FPP 106.3 FM. Bye bye.
Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, chi è veloce si fa male e finisce in ospedale. In ospedale non c'è posto e si può morire presto. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo, la salute non ha prezzo, quindi rallentare il ritmo, pausa pausa ritmo lento, pausa pausa ritmo lento, sempre fuori
dal motore, vivere a rallentatore, lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Ti saluto, ti saluto, ti saluto a pugno chiuso. Nel mio pugno c'è la lotta contro la nocività. Lavorare con lentezza, senza fare alcuno sforzo. Lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza, lavorare con lentezza. I lavori massacranti esistono perché i pesi e i compiti non sono egualmente distribuiti. Adoro il lavoro, ma detesto la fatica. La fatica è quel dolore fisico che si oppone alla continuazione del lavoro. Perciò io... Tengo una voglia e fa niente. Come solo d'indacap, metterà su da pensate e si incontra va via, chi ha inventato fatica, io ti giuro la cita perché... Tengo una voglia e fa niente. Se la fatica era buona, ma consigliavo dottore, se la fatica era buona, non pregavano i preti, benedizione alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa niente. Chi m'ha mis in catena, passa vita in vacanza, io fatica e fatica e passo pure da stronzo. Vaffanculo alla fatica e a chi la vuole. Tengo una voglia e fa niente. A fatica e onora, ma si mascanza meglio ancora. Beato chi con me sa riesce a scansare.
Envie d'Italie. En français?
Voglia d'Italia.
Pour voir l'Italie autrement, d'ici.
Per molto tempo fui ebanista, operaio in borgo d'ogni santi. Mia moglie lì faceva la modista, in questo modo tiravamo avanti. Quando la domenica era bella, ci vestivamo a festa per andare in via delle usciate tanto per fare, contenti di vederti cervellare.
Tous les premiers lundis du mois à 19h sur Fréquence Paris, pluriel 106.3 FM.
I nostri due marmocchi impiastricciati, brandendo lieti miseri balocchi, salivano su con noi nella vettura, felici correvamo in via usciate, strozzati tutti quanti allo steccato, menando colpi per meglio vedere, cercando sotto i piedi un asse e un sasso, per non sporcar di sangue gli scarponi.